La maison Heine a prévu une autre manifestation à la suite et nous devons libérer la place. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Madame Anne Durand, qui est spécialiste de. J'ai perdu le titre aussi. Excusez-moi, j'ai encore un petit. Oui, non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas le titre, la communication sous les yeux. Désolée, il faut que je. Je sais pas où je l'ai mis. Ah voilà, merci. Voilà, merci. Pardon, excusez-moi, décidément. Donc ça ne sera pas décompté. Voilà, pardon. Donc voilà, pardon, excusez-moi. Donc effectivement, donc Anne Durand, spécialiste de l'anthropologie feuillant-barrienne. Donc on va continuer dans l'exploration des affinités et des différences hein, donc entre jeunes et galliens et donc spécialiste de l'anthropologie feuillant-barrienne, philosophie et praxis. Elle a organisé d'ailleurs un colloque sur la réalisation de la philosophie à l'époque du Fourmerz de 1815 à 1848 et elle est l'auteur de nombreux articles sur cet environnement philosophique, donc Feuerbach et Marx, la querelle du matérialisme, Prolegomena zu einer jeden künftigen Politik, der politische Feuerbach, internationale Feuerbachforschung, dans le cadre de l'internationale Feuerbachforschung. Et à présent, donc, elle va nous parler de Feuerbach et Stirner, regard croisé sur le moi. Voilà, vous avez la parole.
Merci. Pour reprendre ce qu'a dit Pauline ce matin en finissant, effectivement, le but du jeu, c'est un peu de vous faire gagner du temps. Et donc, moi, je suis partie sur le fait de vous parler de Feuerbach et de la conception de l'homme de Feuerbach et en quoi elle s'oppose et se différencie de celle de Stirner. Alors, pour des contraintes de temps, je couperai peut-être en partie mon intervention. Donc, j'espère juste que la coupure vous permettra quand même de suivre le sens de mon propos. Et je vais donc parler de la philosophie nouvelle de Feuerbach dans une première partie, pour arriver après à l'unique de Stirner. La philosophie nouvelle de Feuerbach, c'est celle qui naît avec l'essence du christianisme et qui s'oppose à la philosophie moderne en général et à la philosophie spéculative en particulier. Donc, comprendre surtout la philosophie de Hegel, évidemment. C'est celle, dit-il, où la conscience de Dieu, enfin la thèse principale de Feuerbach, c'est que la conscience de Dieu, c'est en fait la conscience de soi de l'homme, que la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de soi de l'homme, et qu'à partir de son Dieu, tu connais l'homme, et inversement, à partir de l'homme, son Dieu, les deux ne font qu'un. Donc telle est l'essence de la religion en général, et c'est ce postulat qui guide les recherches de Feuerbach dans un sens humaniste, et fait de l'absolu l'humanité elle-même. Donc cette philosophie nouvelle à partir de l'essence du christianisme est dans les textes des années 40, ce que vous trouvez dans les manifestes philosophiques, par exemple, qui ont été traduits par Althusser, sert justement à remplacer cet absolu qui est Dieu par l'homme ou l'humanité. Et par exemple, de considérer que la connaissance, la volonté et l'amour constituent des prédicats de l'homme. Et qu'il peut être réalisé par lui-même, non pas en tant qu'individu, mais en tant que genre humain. Donc c'est ce processus qui consiste à expulser sa propre essence irréalisable dans le monde fini, et qui constitue au sens propre l'aliénation. Et celle-ci, elle n'est pas simplement imputable donc, au christianisme ou à la religion, mais aussi à la philosophie spéculative de Hegel. Donc, dans sa philosophie nouvelle, il s'agit de permettre de rendre à l'homme ses propres qualités qui, jusque-là, étaient hypostasiées en Dieu ou dans l'esprit absolu. Donc, pour ça, Feuerbach entend répondre à un besoin de son époque. C'est ce qu'on disait, cette idée d'un moment de transition qui est propre aux jeunes hegeliens en général. Un besoin pratique et une nécessité de posséder une philosophie qui soit adéquate à la praxis de son temps et à l'intervention sur son époque. Le contenu de cette nouvelle philosophie est explicité sous une forme aphoristique, souvent dans les textes tels que les thèses provisoires pour une réforme de la philosophie ou les principes de la philosophie de l'avenir. Et il adopte alors un point de vue, le point de vue de la vie, celui dans lequel le sensible et le spirituel ne sont plus séparés ici-bas ou unis uniquement dans la pensée, mais réellement, concrètement, en l'homme. Donc la question qu'on va se poser, c'est celle vraiment de savoir comment on définit cet homme. Parce que c'est à la fois un point de départ et le but de la recherche. C'est un point de départ, car c'est ce point fixe, cette unité du sensible et du spirituel. Mais c'est aussi la vocation de permettre à l'homme de réintégrer ses propres qualités et de se réapproprier le monde. C'est pourquoi l'anthropologie feuerbachienne porte principalement sur la théorie de la connaissance et la critique de la religion, mais toujours avec un but de praxis. Donc ces deux points permettent à Feuerbach d'esquisser une philosophie de l'avenir, c'est-à-dire d'anticiper sur une nouvelle époque à venir. Ça aussi, c'est un topos des jeunes hegeliens de l'époque. Et ils sont écrits, ces textes, dans une vue d'une praxis, d'une transformation sociale du monde. Pour dépasser un rapport de la pensée à l'être qui réduit ce dernier à n'être que pur être logique, il faut partir de l'homme. Et je cite Feuerbach dans les principes, « Ma philosophie nouvelle est la résolution complète, absolue, non contradictoire de la théologie en anthropologie, seul ce qui concerne l'homme est l'objet de la nouvelle théologie. » Il dit toujours dans les principes, « L'unité de la pensée et de l'être n'a de sens et de vérité que si l'on conçoit l'homme comme le principe et le sujet de cette unité. Seul un être réel connaît des choses réelles. C'est à la seule condition d'être non pas sujet pour soi, mais prédicat d'un être réel, que la pensée, elle non plus, n'est pas séparée de l'être. » Donc l'homme reprend dans la philosophie nouvelle le rôle assumé par Dieu dans la théologie et par l'esprit absolu dans la philosophie spéculative. Il est l'ens realissimum, c'est-à-dire le plus réel des êtres. Feuerbach, ce faisant, cherche à dépasser le dualisme ou les dualismes de la philosophie moderne et plus particulièrement de la théologie et de la philosophie spéculative. Et ce dépassement s'effectue en l'homme, non pas l'individu humain, mais la communauté des hommes, l'homme générique, l'homme générique qui se distingue par la suite dans le je et le tu, c'est-à-dire dans un rapport interpersonnel, ou bien encore l'homme et la femme. En fait, c'est une question complexe que de savoir ce qu'entend Feuerbach par homme ou humanité, car Feuerbach a évolué sur ce point entre l'essence du christianisme, qui est son ouvrage majeur, et les principes de la philosophie de l'avenir. C'est précisément le point sur lequel je ne vais pas plus insister que ça avec vous, mais juste pour dire justement qu'il est passé d'une conception de l'homme comme genre au fait d'insister sur la communauté. C'est une des différences entre l'essence du christianisme et les principes. Pour connaître les prédicats de l'homme, y compris ceux considérés par la théologie ou la spéculation comme surhumains ou divins, en fait, ces prédicats, ce sont des concepts du genre. Les qualités humaines ou les prédicats humains ne peuvent pas se trouver tous, effectivement, ou se réaliser en un seul individu, c'est le Dieu personnel. Et Feuerbach, dans la critique de la philosophie de Hegel, l'explique en citant Goethe, c'est seulement la somme des humains qui connaît la nature, c'est seulement la somme des humains qui vit l'humain. Donc en fait, le genre lui-même est défini comme une somme, c'est un pluriel, c'est quelque chose qui a pour conséquence que l'intégralité des qualités du genre ne peut pas se trouver chez un individu unique. Et nous retrouvons alors dans la critique de la philosophie de Hegel, la critique qui était propre à l'essence du christianisme, de l'incarnation réelle de l'espèce dans un individu déterminé, autrement dit un dieu personnel. C'était ça la critique de Feuerbach, de prêter à un seul individu les qualités qui n'appartiennent qu'au pluriel de l'humanité. L'espèce, je cite, dans sa plénitude, s'incarnant dans une individualité unique, serait un miracle absolu, une suppression arbitraire de toutes les lois et de tous les principes de la réalité, c'est-à-dire une suppression de la détermination spatiale et temporelle. Je vous passe. Ce détail. Pour reprendre donc que ce genre, dont je vous ai parlé dans l'essence du christianisme, évolue rapidement dans les principes par la communauté, Gemeinschaft, et qui permet à Feuerbach d'insister sur l'importance du rapport moi-toi, du rapport à autrui, ou au Mitmenschen. Donc, en passant de l'un à l'autre, Feuerbach va insister sur ce qui est commun. Il va avoir une base anthropologique qui insiste justement sur le fait que l'homme, c'est toujours les hommes, c'est toujours un pluriel. Il rejette ainsi toutes les abstractions de la tradition moderne qui, avec Descartes, déjà considérait un sujet pensant indépendamment de tout lien existentiel à un autre, et avec la philosophie chrétienne qui ne concevait le rapport à un toi que transcendant, uniquement divin et négateur des rapports existentiels à son prochain. Cette communauté, donc, elle prend la forme d'un rapport dual entre le moi et le toi, notamment dans le rapport sexuel ou dans l'amitié. Et la communauté, c'est une réalisation effective, concrète, de l'essence humaine. Je cite toujours les principes. L'homme pour soi ne possède en lui l'essence de l'homme, ni au titre d'être moral, ni au titre d'être pensant. L'essence de l'homme n'est contenue que dans la communauté, dans l'unité de l'homme avec l'homme, unité qui ne repose que sur la réalité de la distinction du moi et du toi. Cette conception, elle rejette l'idée d'une philosophie absolue qui pose un moi monarque absolu, un moi isolé. Et cet intérêt qu'il y a de passer du genre à la communauté, elle tient en fait que le genre avait un caractère universel, mais semblait être l'héritage de la spéculation ou un concept spéculatif que l'on chercherait à humaniser. Tandis que la communauté, elle permet de partir du rapport concret entre des individus. Ce principe de communauté, il définit les rapports entre les hommes, l'homme devient le principe premier de la philosophie de l'avenir, c'est-à-dire de l'anthropologie. Donc on voit bien que c'est sur ce point particulier du Mensch que va porter la critique de Stirner par la suite. La difficulté ne réside pas tant dans l'idée de communauté que dans le résultat de l'union des hommes comme réalisation des sciences humaines, qui de prime abord peut sembler beaucoup moins abstraite que le genre. L'homme tout seul individuellement est imparfait et malheureux car il est détaché de sa propre essence. Il ressent alors péniblement sa finitude et sa limitation. Il éprouve le désir de l'autre car c'est seulement avec l'autre qu'il peut être véritablement homme et dépasser sa limitation. C'est ce désir d'achèvement ou de plénitude qui est la cause partiellement de la croyance en un Dieu personnel, et c'est cette expérience du manque et du besoin qu'il s'agissait de combler. La philosophie nouvelle est ainsi religion en ce sens qu'elle permet de combler réellement un vide, sans s'aliéner en un Dieu autre, car l'homme avec l'homme, l'homme de l'unité du moi et du toi, c'est Dieu. Le problème posé est de quoi la communauté est-elle vraiment communauté ? En ne conservant que l'essence humaine, est-ce que Feuerbach ne crée pas quelque chose de plus abstrait encore que le genre ? Dans les années 40, le mot d'ordre qui pourrait définir la philosophie de Feuerbach serait « retour à l'homme ». En effet, le dépassement de l'aliénation religieuse, particulièrement dans sa dernière forme, le protestantisme, n'avait pas d'autre but que de ramener l'homme aliéné ici-bas. La démarche était la même à l'égard de la philosophie spéculative. Il s'agissait de ramener l'homme de son abstraction de res cogitans, ou d'esprit, en homme spirituel et sensible, en un homme total qui ne serait plus divisé en lui-même. Or, ce que la théologie et la philosophie spéculative nient le plus en l'homme, c'est précisément cette sensibilité et cette corporéité. Donc il s'agit pour ça d'assumer... pour cela de dépasser les défauts qui ont été caractéristiques soit de l'empirisme, soit de l'idéalisme. L'empirisme tire les idées du sens et du sensible, mais nie le moi, tandis que l'idéalisme cherche l'origine des idées dans le moi, abstraction faite d'un toi et des sens. Tandis que pour Feuerbach, l'esprit lui-même est défini à l'intérieur de la sensibilité. Du reste, la négation de l'intégration de l'esprit dans la sensibilité, la séparation entre l'esprit et la sensibilité est possible théoriquement, mais aucunement en pratique. Car tout ce qui est réel, effectivement, est sensible, et cela reviendrait à nier toute réalité à l'esprit. Donc le but va être de dépasser ces apories de l'idéalisme et de l'empirisme. Et ce sont les sens qui vont permettre d'accéder au monde, et c'est par là que commence la philosophie, pour reprendre le reproche du commencement de la philosophie dans la tradition de la philosophie spéculative. Le commencement, effectivement, dans la tradition spéculative, ne commence pas par les sens. Et elle entraîne une certaine définition de la philosophie, mais aussi une certaine abstraction dans le domaine moral ou dans les rapports intersubjectifs. Pour s'en rendre compte, il est nécessaire de s'arrêter sur l'opposition entre Stirner et Feuerbach. Dans L'unique et sa propriété, Stirner, même s'il vise l'ensemble de ses camarades jeunes hegeliens, et a fortiori les Freien, a pour cible principale l'essence du christianisme. Et la réponse que lui adresse Feuerbach en 1845, c'est là-dessus que je vais m'arrêter particulièrement aujourd'hui. Elle date de 1845, donc elle est postérieure à la nécessité d'une réforme de la philosophie ou au principe de la philosophie de l'avenir, et elle permet d'éclairer un peu ces deux textes-là. Par ailleurs, dans la réponse à Stirner, le concept de genre réapparaît, comme si le concept de communauté avait certes éclairé la position de Feuerbach et le caractère absolument non transcendant de sa pensée du rapport « moi-toi », mais qui était moins satisfaisant que celui de genre. Le genre apparaît certes comme un concept philosophique central de la philosophie de Feuerbach, mais il ne ferait que prendre la place du dieu de la théologie. C'est pourquoi Stirner range les amis du genre humain, au premier rang desquels Feuerbach, parmi les athées pieux. C'est cette citation que nous avons déjà eue ce matin. « Mais l'homme ne représentant qu'un autre être suprême, ce dernier n'a fait en réalité que subir une métamorphose, comme la crainte de l'homme n'est qu'une autre forme de la crainte de Dieu. Nos athées sont des gens pieux. » Ce texte très critique à l'égard des « gueux socialistes », l'expression est de Stirner, ou libéraux, reproche à ces derniers de ne pas avoir achevé réellement la critique religieuse et d'avoir laissé subsister un idéal collectif fortement inspiré du christianisme qui continue à oppresser l'individu. Pire encore, par leur défense de grands idéaux tels que la liberté, l'État, les jeunes hegeliens se font complices théoriquement de l'aliénation et de l'asservissement de l'individu. Si la religion aliénait la conscience humaine et rendait caduque le monde ici-bas, les théories socialisantes ou de tendance communiste promettent, selon Stirner, de détruire plus encore la liberté individuelle en justifiant politiquement une oppression étatique. Du reste, aliénation religieuse et oppression étatique sont liées puisqu'elles contiennent l'une et l'autre l'appareil idéologique pour soumettre l'individu d'un point de vue moral. Le même idéal demeure, avec une difficulté plus grande toutefois, car, je cite, cette aliénation du cœur et de l'esprit est d'autant plus redoutable qu'elle n'est pas perçue comme telle, puisqu'on se croit définitivement guéri de l'illusion religieuse. C'est la marque des jeunes hegeliens, selon Stirner, de penser s'être libéré, ou que chacun soit libéré, une fois l'aliénation religieuse dénoncée. Pourtant, il n'en est rien, car les mêmes valeurs demeurent malgré la proclamation de la mort de Dieu. Feuerbach, entre tous, maintient les mêmes valeurs morales telles que la solidarité, l'humanisme, l'amour comme valeurs cardinales, un peu comme dans les évangiles. Stirner oppose à Feuerbach et à son humanisme à peu près ce que ce dernier reprochait à la religion révélée. Dans le monothéisme, l'homme doit s'appauvrir pour enrichir Dieu, tout-puissant, omniscient. Dans l'humanisme feuerbachien, l'enrichissement de l'homme, au sens du genre humain, et dans sa réalisation politique, l'enrichissement de l'État, se fait au moyen de l'appauvrissement de l'individu qui doit se dessaisir ou renoncer à ce qui lui est propre. Prenons l'exemple du droit. Le communisme, nous dit Stirner, admet que les hommes ont par nature des droits égaux, et que donc il n'y a pas de droit des parents sur leurs enfants, par exemple. Sauf que pour Stirner, cette conception qui est empreinte à la Révolution française est de nature profondément religieuse. Elle prétend créer un ordre nouveau, mais en fait, l'égalité des droits, telle que la Révolution l'a établie, n'est qu'une autre forme de l'égalité chrétienne, que la Révolution n'a fait que séculariser en l'appelant droit humain ou droit de l'homme. Mais l'origine religieuse suffit-elle à remettre en cause ce principe d'égalité des droits ? Pour Stirner, la réponse est positive, dans la mesure où ce droit va être tout autant que le droit religieux imposé à chacun. Je cite Stirner, « Un sens du droit ou de la légalité de ce genre est si fort ancré dans la tête des gens que les plus révolutionnaires de nos jours veulent nous soumettre à un nouveau droit sacré. le droit de la société, de l'humanité, le droit de tous et autres du même genre. Le droit de tous doit passer avant mon droit. Stirner ne reconnaît pas alors d'autres droits que ceux que le moi reconnaît pouvoir s'autoriser. Car, que ce soit la nature qui me donne un droit, ou Dieu, ou le choix du peuple, etc., c'est toujours le même droit étranger, un droit que je donne, seul unique, l'individu affranchi de tout lien peut être dit réellement libre. Car c'est lui seul, et sa propre cause, lui seul, est véritablement libre de ses choix. Cependant, même cette liberté est conçue de façon non pas idéale, mais en totale opposition avec ses camarades jeunes hegéliens, de façon tout à fait prosaïque, comme la propriété de soi. Je le cite toujours, « Le divin est la cause de Dieu, l'humain la cause de l'homme. Ma cause n'est ni le divin, ni l'humain, ni le vrai, ni le bon, ni le juste, ni le libre, mais seulement le mien. Elle n'est pas générale, mais unique, comme je suis unique. Pour moi, il n'est rien au-dessus de moi. Seul ce qui m'appartient, ce qui m'est propre, a une quelconque valeur pour moi. Aucun intérêt moral n'est alors commun. Certes, plusieurs individus peuvent avoir le même intérêt. Ils peuvent, le cas échéant, se regrouper en association d'égoïstes. Mais cette dernière ne demeure que tant que chacun y trouve son compte et elle ne peut pas contraindre ou engager à quoi que ce soit. L'amour lui-même, s'il est possible entre deux égoïstes, n'engage à rien. Il en va de même pour la communication et en premier lieu pour l'ouvrage de l'auteur. Je cite à nouveau Stirner. Écrirai-je par amour pour les hommes? Non. J'écris que je veux mettre au monde mes pensées et leur y donner vie. Et si je prévoyais qu'elles vous feraient perdre votre repos et votre paix, si j'y voyais germer les guerres les plus sanglantes et la ruine des nombreuses générations, je ne les en sèmerais pas moins. Il s'agit alors plus d'expression que de véritable communication, car l'autre n'est pas un interlocuteur. Il est réduit au rang de moyen, utilisé en fonction de son utilité. Que je trouve le monde sur ma route, dit Stirner, et je le trouve partout sur ma route, je le consomme pour apaiser mon égoïsme. Tu n'es pour moi que mon aliment, même si je suis moi aussi utilisé et consommé par toi. Stirner ne prône donc pas la vie en ermite et la misanthropie. Il ne nie pas la vie commune des individus, mais il refuse d'en faire autre chose que des individus uniques. Et égoïstes auxquels s'imposeraient des règles morales qui transcendraient les individus. Ce faisant, il prône l'exact contraire des morales chrétiennes puis libérales, dans leur version sécularisée, le contraire de l'altruisme, du désintéressement, de l'amour du prochain, etc. Il ne s'agit pas non plus d'une quelconque perfectibilité de s'élever vers un idéal moral d'ascèse ou de puissance. La seule morale reconnue par l'égoïste, c'est la réappropriation de sa propriété. Chaque unique est en soi perfection lorsqu'il n'est pas aliéné par la société qui l'entoure. Il s'agit donc de partir du moi comme cause et de se réapproprier toutes les propriétés de ce moi. Le moi est alors le début et la fin, l'alpha et l'oméga de la morale de l'unique. Je cite à nouveau « Je suis donc le noyau qui doit être libéré de toutes ses enveloppes, de toutes les écales qui l'en serrent. Que reste-t-il ? Quand je me suis libéré de tout ce que je ne suis pas ? Moi seulement et rien que moi. Pourquoi donc, s'il est vrai que l'on recherche la liberté par amour pour le moi, ne pas le choisir lui-même comme point de départ, centre et fin ? Est-ce que je ne vaux pas plus que la liberté ? N'est-ce pas moi qui me fais libre ? Ne suis-je pas ce qui est au commencement ? Comme le relève justement Yanis Constantidinès dans un article « Mir geht's nichts über mich », la critique paradoxale de l'idéal religieux chez Max Stirner, l'affirmation de soi de Stirner fonctionne sur le même mode que le moi absolu fichtéen dénoncé à propos du commencement en philosophie de Feuerbach. Ce moi indéterminé peut être considéré aussi comme l'héritage d'une forme d'abstraction idéaliste. D'où vient ce moi ? En tout cas, c'est la critique que va en faire Feuerbach. Il est remarquable que Feuerbach prenne l'unique et sa propriété comme une remise en cause principalement de l'essence du christianisme. Mais en tout état de cause, il la prend très au sérieux. Tellement au sérieux d'ailleurs que, loin de l'abandonner, il reviendra sur cette notion d'égoïsme dans les leçons sur l'essence de la religion et tentera de définir un égoïsme existentiel fondé sur l'essence de l'homme. Stirner avait fait le reproche à Feuerbach de ne pas quitter le domaine de la théologie en faisant des prédicats de Dieu des prédicats purement humains. Le divin, à défaut de Dieu, subsisterait l'amour est divin, par exemple. Et Feuerbach justifie ses prédicats, qu'il n'avait pas maintenu en tant que prédicat de Dieu, mais en tant que prédicat de la nature et de l'humanité. Dieu n'était donc qu'un composé de ces derniers, placé hors de la nature et hors de l'homme. Et ce faisant, la croyance en Dieu trouve une explication que ne fournit pas Stirner. Et si les hommes s'aliènent selon lui aussi en Dieu, c'est un mystère de savoir pourquoi sous cette forme exactement. Un autre reproche de Stirner à l'égard de Feuerbach serait le maintien d'une transcendance, la distinction entre un moi essentiel et un moi inessentiel. Bref, Feuerbach scindrait l'homme en deux. Or, cette distinction entre le moi essentiel, l'essence de l'homme, et le moi inessentiel tenait au contraire au maintien de la croyance en un Dieu personnel transcendant. La religion révélée plaçait l'essentiel de ce qui est humain hors de l'homme, comme Feuerbach l'a montré, par exemple par l'importance accordée au sacrifice dans l'essence du christianisme. Les distinctions entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas sont donc en fait des distinctions intrinsèques à l'homme. En revanche, Feuerbach ne commet pas l'erreur logique de Stirner d'affirmer l'individu comme être absolu, ce qui est le propre de la religion révélée. Feuerbach l'a montré dès les pensées sur la mort et l'immortalité. Stirner transpose cette erreur ici-bas et prête à l'unique ce qui est dans la religion le fait de Dieu, un être moralement parfait et exclusif. Il nie alors à l'individu son identité et sa communauté avec les autres individus. Or, selon Feuerbach, dans un texte qu'on trouve dans les manifestes philosophiques, l'essence du christianisme dans son rapport à l'unique et sa propriété, qui est une réponse de Feuerbach à Stirner, je cite Feuerbach, « Être un individu veut sans doute dire être égoïste, mais cela veut dire aussi en même temps, et sans le vouloir, être communiste. Chasse-toi de la tête l'unique céleste, mais chasse-toi aussi de la tête l'unique terrestre. » L'unique terrestre, c'est en effet le résultat de l'abstraction totale de l'homme, pour Feuerbach. Pour le dire avec Albert Camus dans L'homme révolté, rien qu'un moi dressé contre toutes les abstractions est devenu lui-même abstrait à force d'être séquestré et coupé de ses racines. Certes, Stirner nie qu'il existe une essence humaine, mais il nie en même temps l'existence d'une quelconque communauté et ce qui permet cette dernière. Cette double négation est possible car l'unique, en ne faisant aucun cas d'essence, peut penser un moi qui ne repose sur rien, ce en quoi il a raison d'affirmer qu'il repose sur le néant. Mais justement, c'est là que pointe la contradiction, car Stirner ne va pas jusqu'à condamner son unique au solipsisme ou à la vie d'ascète. Il reconnaît que l'unique peut aimer un autre unique, lui aussi. Mais cet autre être n'est jamais considéré réellement. Il s'agit bien de cet unique-ci, mais il n'est jamais décrit, comme un être humain, comme un être sexué, comme une femme. Stirner envisage donc l'amour entre deux êtres uniques, sans envisager qu'ils sont des êtres de la même espèce, ni sans envisager une quelconque sexualité. C'est un point important parce que c'est l'un des jeunes hégéliens qui a le plus insisté justement sur à la fois la corporéité, Feuerbach, mais en même temps sur les distinctions et la différence, sur le je-tu, mais aussi sur le rapport homme-femme. C'est en cela que pour Feuerbach, le moi asexué de Stirner n'est qu'un reste non digéré de l'ancien surréalisme chrétien. On ne peut pas penser un individu sans en penser plusieurs, puisqu'un individu est par définition limité. Et ces individus se distinguent d'un point de vue sensible, au minimum entre hommes et femmes. Ce développement permet à Feuerbach de préciser alors ce qu'il entend par « genre ». Je le cite, « Le genre signifie seulement le toi en face du moi singulier fixé pour soi, l'autre, et en général les individus humains qui existent hors de moi. Quand on lit par exemple chez Feuerbach, parce que Feuerbach parle de lui à la troisième personne, quand on lit par exemple chez Feuerbach, l'individu est limité, le genre est illimité, cela ne veut rien dire que les limites de cet individu-ci ne sont pas aussi les limites des autres. Les limites des hommes présents ne sont pas pour autant les limites des hommes à venir. Nos limites en tant qu'individus sont spatiales et temporelles. La pensée du genre permet de viser quelque chose de plus élevé que nous, sans qu'il s'agisse pour autant d'une quelconque transcendance dans un au-delà idéal. Mais de même qu'il faut deux êtres pour se reproduire et en faire un troisième, de même ce que peut faire le genre humain, compris comme totalité des individus, est plus grand que ce que peut accomplir un individu isolé. C'est donc paradoxalement en obéissant au sens, mantra répété ad libitum par Feuerbach, que chacun peut prendre conscience de sa limitation en tant qu'individu et que ce qu'il place consciemment au-dessus de lui n'est en fait que ce qui ne peut être réalisé que collectivement et avec d'autres. L'éthique qui découle de cette reconnaissance de l'autre n'est donc pas non plus une morale transcendante qui s'imposerait aux hommes du fait de telle ou telle autorité, religieuse ou politique, mais elle est au contraire à la mesure de l'homme et elle vise que les rapports de l'homme à l'homme. Feuerbach finit par une affirmation qui clôt l'échange, mais permet aussi plus précisément de définir le rôle de la sensibilité dans l'économie générale de sa philosophie, je le cite. Seul le sensible est vérité, être et réalité. Feuerbach n'est donc ni matérialiste ni idéaliste, ni philosophe de l'identité. Il est dans ses pensées pour ce qu'il est en fait, en esprit pour ce qu'il est en chair, en essence ce qu'il est dans l'essence, homme. Ou plutôt, comme il transpose dans la communauté seulement l'essence de l'homme, Feuerbach est homme communautaire, communiste. Être homme signifie alors se poser soi-même dans son rapport aux autres et ce faisant être capable de dépasser ses intérêts personnels au profit d'intérêts communs, c'est-à-dire que son individualité propre ne se définit plus, comme pour Stirner, dans l'abstraction de toute autre individualité et donc dans l'ensemble de la société. Au contraire, l'individu feuerbachien se constitue au sein de la totalité de la société. Conséquence pratique de ces divergences, Stirner et Feuerbach ont bien évidemment une conception quelque peu différente de la politique. Feuerbach, dans sa 24e leçon sur l'essence de la religion, donne une certaine importance à l'État et à la pluralité des hommes, c'est-à-dire à une instance sur le collectif. Je cite cette 24e leçon. « Pour ma part, je ne donnerai pas un copec pour la liberté politique tant que je suis esclave de mes représentations et préjugés religieux. La véritable liberté n'est que là où l'homme est aussi libéré de la religion. La véritable culture n'est que là où l'homme s'est éloigné de ses préjugés religieux et de ses représentations imaginaires. L'État ne peut avoir d'autre but que de former des hommes complets, au sens de complètement libres et non dans un sens purement imaginaire. » Un État, donc, dont les citoyens, bien que non libres religieusement, sont dans des institutions politiques libres, ne peut en aucun cas être un État humain et libre. L'État ne fait pas les hommes, ce sont les hommes qui font l'État. Tels sont les hommes, tel est l'État. Donc il y a un État chez Feuerbach comme réalisation politique de l'essence humaine ou de la communauté des hommes. Tandis que pour Stirner, on l'a vu déjà ce matin, il y a une critique de l'État tel qu'il est conçu par les libéraux progressistes et autres jeunes hegeliens, car il serait une entrave insupportable plutôt qu'une réalisation. Et j'en ai presque fini. Je cite, « Si l'État est une société d'hommes et non une réunion de moi dont chacun n'a en vue que lui-même, il ne peut subsister sans moralité. Ainsi l'État et moi sommes-nous ennemis. Les biens de cette société humaine ne me tiennent pas à cœur et à moi l'égoïste, je ne me dévoue pas pour elle, je ne fais que l'employer, mais afin de pouvoir pleinement en user, je la convertis en propriété, j'en fais ma créature, c'est-à-dire que je l'anéantis et que j'édifie à sa place une association des égoïstes. » Il y a, pour finir, et là ce sera vraiment ma conclusion, une différence qui est assez étonnante entre Feuerbach et Stirner, c'est que même s'ils ont une théorie quasi radicalement opposée, ils jouent finalement le même rapport de reconnaissance pour d'autres jeunes hegeliens, et notamment pour Engels et Marx. En effet, Feuerbach a ouvert les yeux à un certain nombre de jeunes hegeliens, et c'est ce que raconte Engels dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, dans ce texte célèbre où il dit... C'est alors que parut l'essence du christianisme de Feuerbach. D'un seul coup, elle réduisit en poussière la contradiction en replaçant sans détour le matérialisme sur le trône. Je vous fais grâce d'une grande partie de la citation, mais qui finit par « Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général. Nous fûmes tous momentanément des Feuerbachiens. » Donc on voit qu'il y a une ouverture critique. Grâce à Feuerbach auprès des jeunes hegeliens. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se passe au moment des leçons sur l'essence de la religion exactement la même chose avec Stirner qui ouvre qui ouvre la vue finalement sur la philosophie de Feuerbach et qui permet à Engels et à Marx d'en sortir. Au moment de l'essence, des leçons sur l'essence et la religion, ils sont très très critiques à l'égard de ce livre, comme d'autres. Ils le trouvent vaseux. Et finalement, Engels, dans une lettre à Marx de 1845, dit que ce qui a motivé son changement à l'égard de Feuerbach, c'est entre autres Stirner. Et je cite Stirner pour conclure. Stirner a raison de... Enfin, je cite, pardon, Engels sur Stirner. Stirner a raison de rejeter l'homme de Feuerbach, du moins celui dans l'essence du christianisme. L'homme de Feuerbach est déduit de Dieu. Après avoir posé Dieu, Feuerbach a posé l'homme. Et ainsi l'homme est encore, il est vrai, couronné de l'auréole théologique de l'abstraction. Pour aboutir à l'homme, c'est le chemin inverse qui est vrai. Nous devons partir du moi, de l'individu empirique, en chair et en os, non en rester prisonnier comme Stirner, mais pour nous élever de là progressivement à l'homme. Il ne s'agit pas alors pour Engels de renoncer théoriquement à l'homme, mais de renoncer à Feuerbach comme moyen pour y parvenir. Et ça, c'est passé par la lecture de Stirner. Merci.
Merci, merci aussi d'avoir respecté le temps. Donc on sait bien, oui, merci. C'était un petit peu un plaidoyer pour Stirner, finalement. Enfin bon, on y reviendra. On va enchaîner tout de suite avec la seconde communication et on discutera ensuite les deux communications pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai le plaisir à présent de vous présenter Jean-Christophe Angot, qui est maître de conférence en philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Ses domaines d'enseignement et de recherche sont la philosophie allemande du XIXe siècle, plus particulièrement le mouvement jeune hegelien, la philosophie politique et plus particulièrement le socialisme, le communisme et l'anarchisme. Et donc, il a également publié sur ce sujet, notamment un article qui s'intitule « Conflit, anarchie et démocratie en repartant de Proudhon ». Également la sociologie du parti en contexte. Bon, c'est une postface à un ouvrage qui s'intitule « Sociologie du parti dans la démocratie moderne, enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes ». Et puis, bon, peut-être aussi important pour nous, « De la jeune Allemagne au jeune hegelianisme » dans donc écrit de jeunesse « Le jeune allemand hegelien Friedrich Engels ». Il va à présent nous parler justement de la relation entre Stirner et l'anarchisme. Hein, donc le titre étant « Stirner et l'anarchie ». Voilà. Vous avez la parole.
Merci. Merci de votre invitation. Merci pour l'organisation de cette journée. Pourquoi s'intéresser au rapport entre Stirner et l'anarchie? La première, peut-être la plus évidente, c'est que dans la plupart des histoires de l'anarchisme figure un chapitre consacré à Stirner et celui-ci est souvent rangé aux côtés de Proudhon et de Bakounine parmi les pères de l'anarchisme et plus spécifiquement encore comme le premier représentant de l'individualisme anarchiste. La seconde qui vous concerne plus si vous êtes agrégatif d'allemand, c'est que le jury d'agrégation d'allemand a choisi de mettre l'unique et sa propriété dans un programme qui se termine par cette précision. On s'interrogera sur la pertinence du concept d'anarchisme souvent utilisé à l'encontre de l'auteur. Je vais y revenir, ça semble suggérer que le concept en question aurait quelque chose d'infamant. La troisième raison qui peut venir justifier cet examen des rapports entre Stirner et l'anarchie tient au fait que la question se pose aussi pour d'autres membres du mouvement jeune hegelien, dont certains, Bakounine, Hesse, Edgar Bauer, jusqu'à un certain point, peuvent, à un moment donné de leur parcours, éventuellement être qualifiés d'anarchistes. À ces raisons, il faudrait peut-être en ajouter une autre qui touche moins à ce qu'on dit de Stirner qu'à ce qu'on dit de l'anarchisme. Dès qu'est apparu, notamment au sein du mouvement ouvrier, un courant anarchiste, ses adversaires ont estimé qu'il était influencé par Stirner. Alors, avant d'entrer plus avant dans l'examen de ces rapports, peut-être une explication pourquoi je parle d'anarchie et pas d'anarchisme. Alors, d'une part, pour éviter l'anachronisme, l'anarchisme en tant que mouvement se constitue bien après Stirner. Et puis, d'autre part, c'est sans doute plus fidèle au contexte dans lequel écrit Stirner que de s'intéresser à l'usage qu'il fait lui-même et d'autres autour de lui du mot d'anarchie. Alors, par souci d'efficacité, j'espère d'utilité pour vous, je vais répartir mes remarques en trois rubriques. Je montrerai d'abord quel rôle a joué la réception anarchiste de Stirner dans sa redécouverte et dans son association à l'anarchisme. Je chercherai ensuite à interroger le rapport effectif que Stirner, dans l'unique, entretient avec la notion d'anarchie et avec des auteurs que l'on peut considérer à l'époque comme anarchistes, mais en fait principalement Proudhon. Et je terminerai en tentant de cerner ce qui, chez Stirner, peut-être fournit une prise à une réception anarchiste. Alors, cela étant, avant d'aborder la réception anarchiste de Stirner proprement dite, il faut dire un mot du rôle qu'a pu y jouer le marxisme. En effet, avant que des anarchistes ne revendiquent la figure de Stirner, on trouve chez Marx et Engels plusieurs indications sur Stirner comme l'une des sources de l'anarchisme auquel précisément ces deux hommes s'opposaient au sein du mouvement ouvrier. Et cela dès 1874, dans les notes dont il couvre les marges du dernier ouvrage de Bakounine, Étatisme et anarchie, Marx estime, je cite, que Bakounine a simplement traduit en langue tartare sauvage l'anarchie de Proudhon et de Stirner. Quelques années plus tard, lorsqu'il revient sur son passé hegelien, c'est l'époque du Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie ou la sortie de la philosophie classique allemande, son ami Engels propose un rapprochement similaire, notamment dans une lettre d'octobre 1889 à Max Hildebrandt où il explique hein, « Stirner a vécu une renaissance à travers Bakounine, qui du reste était aussi à Berlin à cette époque. L'anarchie de Proudhon, prise en son sens anodin et étymologique, c'est-à-dire l'absence de pouvoir d'État, n'aurait jamais conduit aux doctrines anarchistes actuelles si Bakounine y avait versé une bonne partie de la révolte stirnerienne, ce qui est un tissu d'ânerie en fait, hein, mais il n'y a aucune référence à Stirner chez Bakounine, ils ne sont jamais côtoyés. Alors, cela étant, on ne traque dans ce texte, pas plus que dans d'autres, Engels ne fait de Stirner un anarchiste, puisque selon lui, l'anarchisme découle plutôt de la rencontre, dans Bakounine, de l'anarchie proudhonienne et de la révolte stirnerienne. De sorte qu'il convient de souligner deux choses. D'une part, que s'il y a bien une tradition non-anarchiste qui associe Stirner à l'anarchisme, et qui est hostile aussi bien à l'un qu'à l'autre, elle ne cherche pas pour autant à disqualifier Stirner comme anarchiste. Et d'autre part, il serait plus juste, en l'espèce, de dire qu'on a cherché à disqualifier l'anarchisme en y associant la figure de Stirner. Alors, l'examen de la réception anarchiste de Stirner montre ensuite que si le concept d'anarchisme a souvent été utilisé pour qualifier la doctrine de Stirner, c'est assez rarement à son encontre. Bien au contraire, c'est parce que certains anarchistes à la fin du XIXe siècle ont cru pouvoir reconnaître dans l'auteur de l'Unique l'un de leurs devanciers, ou un devancier de certains de leurs compagnons, qu'ils en sont venus à l'intégrer à une tradition anarchiste. Alors, je ne veux pas faire le tour hein, de la foisonnante réception anarchiste de Stirner à partir des années 1890, des discussions qu'elle a engendrées dans tous les pays où était présent un mouvement anarchiste. Simplement, je vais fournir quelques repères historiques et dégager un peu quelques grandes tendances significatives. Alors, la renaissance de Stirner, dont le livre a été tombé dans l'oubli après 1848 et avait dû attendre 1882 pour connaître une réédition en Allemagne, est principalement due à l'intérêt que des anarchistes lui ont porté à la fin du XIXe siècle. Le rôle qu'a joué pour cette redécouverte son biographe McKay, lui-même de sensibilité libertaire, n'est plus à rappeler, même s'il doit sans doute être nuancé. McKay n'est pas le seul anarchiste allemand de l'époque à s'intéresser à Stirner. Dès le début des années 1890, le jeune Gustav Landauer le cite favorablement, sans qu'on sache précisément comment il en a eu connaissance. Et toujours dans l'ère germanique, il faut mentionner l'un des premiers auteurs à tenter explicitement de situer Stirner dans la tradition anarchiste, voire dans une philosophie, une série de penseurs anarchistes. C'est Paul Elsbacher qui, dans son ouvrage de 1900, Der Anarchismus, présente Stirner comme l'un des sept penseurs majeurs de l'anarchisme, aux côtés de Godwin, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Tucker et Tolstoï. En France, c'est également dans les milieux anarchistes, et plus particulièrement chez les individualistes et dans toute une bohème littéraire, que l'unique et sa propriétaire, l'unique et sa propriétaire. Je vais le garder pour moi, puis je vais réfléchir après sur ce que ça signifie. Donc, que l'ouvrage a été traduit pour la première fois intégralement en français, d'abord par l'anarchiste Robert Reclair, alors dans une traduction pas bien fameuse, mais néanmoins très souvent réédité, et puis par Henri Lavigne l'année suivante aux éditions de la Revue Blanche. Mais il en a existé des éloges dès 1892 par Charles Handler, sous pseudonyme, et puis des traductions partielles, notamment à partir de 1894, et puis plus généralement on trouve quantité de mentions de Stirner dans un certain nombre de revues françaises où s'expriment des voix, notamment symbolistes, proches, disons, d'un anarchisme littéraire, notamment la Revue Blanche, la Revue Bleue, le Mercure de France, au cours des années donc 1890. Et rapidement, Stirner est identifié comme l'un des inspirateurs, voire des précurseurs de l'individualisme anarchiste. Cela étant, dans cette première réception anarchiste de Stirner, ou de Stirner le rattachant à l'anarchisme, il y a un premier paradoxe, c'est que si le caractère anarchiste de sa doctrine est bien contesté dès le début, ce n'est pas forcément par ceux dont on pourrait l'attendre. Par exemple, un théoricien communiste anarchiste comme Pierre Kropotkin mentionne bien Stirner comme anarchiste dans son article de 1910 sur l'anarchisme, dans l'Encyclopédia Britannica, et en signalant ses différents théoriques. Mais inversement, parmi les représentants de l'individualisme anarchiste qui se réfèrent à lui, tous sont loin de le reconnaître comme anarchiste. C'est le cas notamment chez ces deux premiers traducteurs que j'ai cités tout à l'heure. Reuchler explique par exemple que Stirner n'a fait qu'entrevoir le fond positif et fécond de sa pensée et que c'est à nous, anarchistes, à aborder au port pour ne pas en rester, je cite, à un nihilisme purement théorique. Et de même, traduisant le livre donc pour la Revue Blanche, Henri Lavigne estime qu'il y aurait erreur à assimiler Stirner aux anarchistes de notre temps en raison de son positivisme glacé. Ils n'entendent pas la même chose par positif et positivisme, les deux, qui s'oppose à l'idéalisme de ceux-là. Alors, il y a un sort sans doute particulier dans cette réception anarchiste de Stirner à faire à Gustav Landauer, qui toute sa vie, qui propose sans doute la réception la plus consistante théoriquement, qui toute sa vie ne cessa de lire Stirner avec une alternance d'éloignement et de rapprochement, et qui estimait, lui, que l'auteur de l'Unique devait être compté parmi ceux qui avaient choisi le qualificatif d'anarchiste ou qui pouvaient le tolérer. Et le meilleur exemple de ce qu'un anarchiste comme Landauer pouvait retenir chez Stirner se trouve dans un bref article qui propose une histoire du concept d'anarchie, où Stirner est rangé parmi ceux, alors au même titre que Bakounine et Edgar Bauer, qui ont une conception toute négative de l'anarchie, où celle-ci désigne le moment du passage destructeur de l'ancien au nouveau et qui ne parviennent pas à identifier comme anarchie le nouvel ordre positif. Alors je vais revenir dans un instant sur cette analyse, mais simplement signaler que c'est pas tout ce que Landauer retient de Stirner. Il le loue aussi comme le dernier des grands nominalistes, on n'a pas attendu Balibar pour dire ça, dont la doctrine, dit-il, est l'application pratique de la critique du langage, notamment alors dans Skepsis ou de Mystique. La réception anarchiste de Stirner, elle va en fait évoluer, le paradoxe que j'ai souligné va se résorber par la suite, lorsque, en quelque sorte, des tendances au sein du mouvement anarchiste deviennent identifiées comme telles. Chez les individualistes, on va vraiment revendiquer davantage, chez quelqu'un comme Armand, par exemple, la figure de Stirner. Armand écrit un article « Stirnerisme » dans l'Encyclopédie anarchiste. Et puis, inversement, chez un certain nombre d'anarcho-syndicalistes, Stirner va être repoussé en disant « Non, c'est pas un anarchiste, lui. » Alors, les raisons, en général, sont beaucoup moins, académiques que militante. Un exemple récent dans l'ouvrage Black Flame de Michael Schmidt et Lucien van der Waal, ils expliquent trois raisons pour lesquelles il ne faut pas inclure Stirner dans la tradition anarchiste. Ça affaiblirait l'idéologie anarchiste, parce que, et en outre, Stirner serait un partisan de l'insurrection et non pas de la révolution, donc ça nuirait à la radicalité de l'anarchisme. Et puis son invocation du moi rendrait poreuse la barrière entre anarchisme et théorie libertarienne. Alors, cela étant, ces paradoxes de la réception anarchiste de Stirner, qui n'est pas d'emblée donc reçu comme anarchiste chez ceux qui s'en réclament, ça s'explique assez bien si on considère ce qu'est l'individualisme anarchiste. Je ne vais pas vous en faire l'histoire, mais simplement, ce n'est que tardivement qu'a été identifié un courant comme tel. Au départ, les gens qui se sont identifiés comme individualistes anarchistes sont des gens qui ont d'abord une pratique individualiste, bien souvent une pratique présente par la propagande par le fait, mais en faveur d'un idéal anarchique conçu sur un modèle communiste. Donc ce sont des communistes anarchistes qui font de la propagande individuelle pour l'anarchisme communiste. Et ce sont ces gens-là qui ensuite vont éventuellement se chercher des cautions théoriques dans un second temps dans les théories de Stirner, mais aussi d'ailleurs chez Nietzsche, raison pour laquelle d'ailleurs quelqu'un comme Albert Lévy consacrera une monographie au rapport entre Stirner et Nietzsche, précisément sur l'horizon de la revendication de ces deux auteurs par l'anarchisme individualiste. Alors maintenant, est-ce que cette réception avérée, compliquée mais avérée, de Stirner par les anarchistes peut s'autoriser de ce que l'on trouve dans l'Unique. Alors, cette question, elle possède deux facettes. D'une part, il faut examiner ce que Stirner lui-même dit de l'anarchie et des anarchistes dans son livre. Et d'autre part, il faut se demander ce qu'il y a d'anarchiste, peut-être, dans l'égoïsme théorique radical défendu par l'Unique. Alors, à première vue, l'exploration de ce que dit Stirner de l'anarchie dans les quelques rares pages où il emploie ce terme a quelque chose de décevant. Quantitativement tout d'abord, puisque le terme apparaît en tout et pour tout deux fois dans l'ouvrage, donc dans l'édition Réclame, hein, c'est page 115 et page 263. Mais c'est décevant aussi sur le fond, puisque dans les deux passages en question, l'anarchie, elle est simplement associée à l'absence de loi, la Gesetzlosigkeit. Dans le premier, Stirner dit du libéralisme politique que son but est un ordre rationnel, un comportement éthique, une liberté bornée, mais pas l'anarchie, l'absence de loi et la particularité. Mais, répond Stirner, où règne la raison, la personne succombe. Et dans le second, il écrit du bon état, qu'il disparaît avec les bons citoyens, il se dissout dans l'anarchie et l'absence de loi. Donc à chaque fois, les deux termes sont employés comme des synonymes. Donc à un premier niveau, l'interprétation de cet usage du vocabulaire de l'anarchie est évidente. L'anarchie n'a chez Stirner que la signification négative qu'elle possédait avant le retournement auquel Proudhon l'a soumise dans « Qu'est-ce que la propriété ?» en 1840. L'anarchie, c'est simplement le désordre qui découle de l'absence de loi, donc c'est une situation d'anomie. De ce point de vue, Stirner ne diffère pas de la plupart des autres jeunes hegeliens qui ont connaissance des théories de Proudhon et qui, même lorsqu'ils tentent de s'approprier les théories en question, ne reprennent jamais pour eux-mêmes le qualificatif d'anarchiste. Ceux-ci sont tributaires de Lorenz Feuchstein, qui estimait qu'il ne pouvait y avoir de résultats intrinsèquement plus faux et de pensées plus désespérées que la revendication anarchiste proudhonienne, et qui suggérait même que cette revendication était simplement un résultat de la conséquence de Proudhon, soucieux de montrer où conduisait le principe de la liberté individuelle pris dans son exclusivité. Alors deux auteurs à l'époque font un petit peu exception, c'est Edgar Bauer qui évoque bien l'anarchie comme un état de transition souhaitable, sans lequel, je cite, « rien de bon ne peut se faire », et surtout Moses Hess dans ses articles pour les 21 feuilles de Suisse de Georg Herweg, qui lui identifie positivement le communisme et l'anarchie, je vais y revenir brièvement dans un instant. Alors, Stirner semble très en retrait par rapport à ces deux exceptions, et il est tout à fait indéniable que la question de l'anarchie n'a absolument rien de central dans son propos. Simplement, on notera que dans les deux passages que j'ai mentionnés, Stirner ne fait pas de l'anarchie un état qu'il s'agirait de déplorer ou d'éviter. Bien au contraire, si l'anarchie, c'est ce qui excède l'ordre légal et rationnel désiré par les libéraux, si elle se signale comme le règne de la particularité, il semble qu'elle soit, sinon ce que recherche l'unique, du moins ce par quoi il doit passer lorsque son intérêt est contraire à celui de l'État. De sorte que la proximité avec Edgar Bauer est ici plus grande que ne laisse penser les mentions explicites du jeune frère de Bruno dans l'ouvrage. L'anarchie apparaît comme le moment nécessaire de la dissolution d'un ordre, ce à quoi aspire négativement l'unique, au moins pour lui-même. Ce serait donc à l'anarchie, à l'absence de toute loi, qui viendrait nuire au libre développement de sa personnalité, de sa particularité. Reste que Stirner n'associe pas cette anarchie à un programme social et n'utilise pas le terme pour qualifier positivement une situation dans laquelle l'unique pourrait librement s'épanouir. Et dans la mesure où il a connaissance de tentatives allant dans ce sens, eh bien, ça signifie qu'il s'y refuse. Il devient donc nécessaire maintenant d'examiner ce que Stirner dit des auteurs qui, à l'époque, se revendiquent explicitement de l'anarchie. Ce qui nous amène donc au passage de l'unique et sa propriété qui mentionne alors, principalement les textes de Proudhon et, dans une moindre mesure, ceux de Moses Hess et de Bauer. Je vais commencer par ces deux derniers parce qu'en fait, ce que Stirner en dit semble redoubler la relative déception que provoque son usage parcimonieux de la notion d'anarchie. Autrement dit, de même que la notion d'anarchie n'a rien de central chez lui, la discussion des anarchistes est périphérique et d'ailleurs n'est jamais conduite comme telle. S'agissant de Hess, tout d'abord, Stirner a connaissance des textes dans lesquels Hesse emploie positivement le vocabulaire de l'anarchie, ceux des 21 feuilles, il mentionne le recueil d'ailleurs, mais il signale simplement dans ses textes de Hesse le mot d'ordre de la liberté absolue, dont il estime, hein, appliquant le schéma anti-hiérarchique sur lequel on va revenir, qu'il possède la même existence chaotique et fantomatique, hein, umwesen treiben, que tout autre absolu, et il cite Hesse affirmant que cette liberté absolue est censée être réalisable dans la société humaine absolue. Alors, il ne développe pas du tout cette critique. Hein, c'est les deux mentions de Hesse qu'on trouve dans l'Unique sont finalement assez anecdotiques. Quant à Edgar Bauer, qui est l'autre jeune hegelien à employer positivement à l'époque la notion d'anarchie, il est davantage cité dans l'Unique, mais précisément pas pour les textes où il fait l'éloge de l'anarchie. Et c'est essentiellement à son éloge de l'État libre, qualifié parfois aussi de populaire ou de républicain, que s'attaque Stirner. Alors, il n'est pas impossible que Stirner ait d'ailleurs lui-même regretté de ne pas avoir pu prendre en compte les développements ultérieurs de la pensée d'Edgar Bauer, puisque c'est notamment à son propos qu'il signale que sa critique, en deux endroits d'ailleurs, hein, qu'il signale que sa critique a été rédigée immédiatement après la publication des textes qu'elle cible, et qu'il n'a pas pu prendre en compte ce qu'il avait écrit par la suite. Et cette remarque n'est évidemment pas anodine, pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'après les textes d'Edgar Bauer que cite Stirner, apparu en août 1843, son livre, hein, donc « Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat », qui s'en prend frontalement à l'Église et à l'État en tant que tel, qui contient donc un éloge de l'anarchie. Et en outre, ce livre vaut à Edgar Bauer une condamnation à 4 ans de prison. Stirner sait donc qu'il est en train de critiquer les théories d'un auteur qui est au même moment en prison pour les avoir exposées. Alors, sur le fond, Stirner discute principalement, pas exclusivement, mais principalement un texte d'Edgar Bauer, daté de janvier 1843. Ce sont les « Liberale Bestrebungen in Deutschland », texte qui représente une critique de gauche des compromissions auxquelles sont prêts les libéraux allemands dans le contexte qu'a brillamment rappelé Pauline ce matin. Les remarques de Stirner sur ce texte sont assez révélatrices de ce qui le sépare des jeunes hegeliens en cours de radicalisation politique. Elles procèdent en deux temps. Tout d'abord, Stirner repère une contradiction sous la plume de Bauer qui parle de gouvernement populaire, Volksregierung, à propos de la République qu'il appelle de ses voeux, avant de retirer ce mot de gouvernement quelques pages plus loin, en soutenant que dans la République, il n'y a pas de gouvernement, mais seulement un pouvoir exécutif qui procède du peuple sans en être indépendant. Et Stirner a évidemment beau jeu de souligner alors que ce qui procède du peuple en devient nécessairement indépendant. Alors c'est d'ailleurs dans ce passage-là qu'il fait le rapport avec le rapport entre parents et enfants. De même que l'enfant qui naît de mère en devient indépendant, de même le gouvernement ou le pouvoir exécutif auquel le peuple donne naissance, eh bien, il prend son indépendance. Et puis dans un second temps, il y a le peuple souverain qui sous-tend cette dénégation de l'autonomie du gouvernement par rapport au peuple, en soutenant que dans la République, ou État libre, en tant qu'il s'agit d'un Volksstaat, d'un État populaire, eh bien, je suis opprimé par le fantôme du peuple, en tant que je considère le peuple comme davantage que la collection d'individus qui le composent. Et il signale, Stirner, qu'à tout prendre, le constitutionnalisme, en tant qu'il représente l'État en cours de dissolution, est préférable. Stirner voit donc dans le démocratisme d'Edgar Bauer une aspiration à remplacer, selon le modèle de substitution qu'on a vu ce matin, une puissance contingente, le prince, par une autre puissance contingente, le peuple, sans remettre en question l'État. Et par opposition, Stirner n'hésite pas à se dépeindre en ennemi du peuple. En tout cas, pour moi, dit-il, le peuple est une puissance contingente, une force naturelle, un ennemi que je dois vaincre. C'est le bannissement des moi, l'ostracisme qui rende le peuple maître de lui-même. Donc, dans l'édition Réclame, page 253. Alors, il reste que cette critique, elle est davantage adressée au démocratisme qu'à l'anarchie, et que Stirner en a peut-être d'ailleurs lui-même senti les limites, eu égard aux écrits ultérieurs d'Edgar Bauer, qui, quelques mois plus tard, s'en prendra précisément à l'État d'une manière frontale. Dès lors, ce qui pourrait être le plus révélateur du rapport de Stirner à l'anarchie, ce sont les nombreux passages qu'il consacre à Proudhon, dont il semble avoir une connaissance de première main et dont il cite deux ouvrages, donc le fameux « Qu'est-ce que la propriété ?» de 1840 et « La création de l'ordre dans l'humanité » ou « Principe d'organisation politique » de 1843. Alors, pour saisir l'écart entre Stirner et ce qu'il comprend de Proudhon. On peut répartir la demi-douzaine de passages de l'Unique qui évoque Proudhon en deux catégories. En premier lieu, je vais passer plus rapidement là-dessus, Stirner est visé par la critique plus générale de ceux qui sont attachés à l'inviolabilité de la morale, qui estiment que nous avons des devoirs envers la société, qui promeuvent aussi un certain ordre social en affirmant l'impossibilité d'une science acéphale. D'une société, pardon, acéphale, et qui, de ce fait, contribue à la perpétuation de ce que Stirner nomme hiérarchie. Donc, tout ça, c'est les critiques du livre de Proudhon, La création de l'ordre. Mais en second lieu, et sans doute principalement, Stirner propose une critique circonstanciée de la fameuse formule de Proudhon, la propriété, c'est le vol. Cette formule scandaleuse est citée une première fois dans la première partie du texte, au sein d'une critique plus large du caractère sacré de la morale. Et en substance, Stirner explique que c'est bien parce que Proudhon considère le vol comme un crime qu'il pense flétrir la propriété en la ramenant à un vol. Alors cette notation est intéressante parce qu'elle contribue à éclairer l'absence de condamnation morale qu'il y a derrière l'évocation de l'anarchie par Stirner comme absence de loi. Ce que la suite va d'ailleurs venir confirmer. Les différents aspects de l'affrontement de Stirner avec la critique proudhonienne se concentrent dans un long passage qui vaut être analysé pour lui-même, celui donc dans l'édition Réclame que vous trouvez page 275-278, où Stirner signale d'abord un certain nombre d'arguments contre Proudhon. C'est ce qu'il appelle l'embarrassante question de savoir ce que l'on pourrait objecter de fondé contre le vol. J'ai entendu, je vois pas. C'est aussi l'idée que le vol suppose la propriété, d'où le rapprochement qu'opère Stirner entre Proudhon et le communiste Weitling. C'est parce que les deux supposent que tout est la propriété de tous que l'appropriation individuelle devient un vol. Et c'est enfin, dans la continuité de cette idée que le vol suppose la propriété, l'incomplétude de la critique proudhonienne de la propriété qui est soulignée. Proudhon ne remplace le propriétaire par le possesseur ou l'usufruitier que pour le sol, mais pas pour le bénéfice que chacun en tire, de sorte que Proudhon nie, N-I-E, telle ou telle propriété, telle et telle propriété, pas la propriété. Vient alors la seconde ligne d'argument qui consiste à rectifier la critique proudhonienne et à lui substituer une maximalisation de la propriété et du geste d'appropriation qui la sous-tendrait selon Stirner. Partant de la reconnaissance que toute propriété découle, sinon d'un vol, du moins d'une appropriation, Stirner recommande à Proudhon, en quelque sorte, d'arrêter de geindre et de prôner le vol, au contraire, il lui recommande de prôner le vol et la jouissance commune du produit de ce vol. Je cite Stirner, « Proudhon pourrait s'épargner son pathos radoteur s'il disait « Il y a certaines choses qui n'appartiennent qu'à quelques-uns, auxquelles nous autres voulons désormais prétendre ou faire la chasse. Laissez-nous les prendre, puisque c'est en prenant qu'on parvient à la propriété et que la propriété dont nous sommes encore actuellement privés n'est elle aussi parvenue au propriétaire qu'en étant prise. Elle pourra être mieux utilisée entre nos mains à nous tous que si quelques-uns seulement en disposent. Associons-nous donc en vue de ce vol. » On voit donc que Stirner substitue, c'est le conseil qu'il donne à Proudhon, de substituer une lutte contre la propriété, à une lutte contre la propriété, la possibilité d'une lutte pour l'appropriation collective, lutte qui, loin de remettre en cause la propriété en supposant une chimérique propriété commune, originelle par l'humanité, consiste à pousser dans ses extrêmes conséquences le principe de l'appropriation privée, en la fondant, d'ailleurs, y compris, comme un certain nombre d'auteurs avant lui, comme Locke, sur la possession que j'ai de mon propre corps. Et cette possession, elle est à la fois exclusive, au sens où elle exclut tout autre de la jouissance du bien approprié, mais cette jouissance peut être collective, nous dit Stirner, et elle est à la fois droit dû et d'abus, ce que Proudhon dénonçait précisément dans ce qu'il appelait l'institution propriétaire. Au contraire, en faisant de la société le possesseur originel dépossédé par le propriétaire individuel, Proudhon dépossède les individus réels au profit d'un fantôme, celui de la société comme personne morale, de sorte que Proudhon et les communistes, en ce qu'ils combattent l'égoïsme, sont simplement, je cite, les continuations et les conséquences du principe chrétien de l'amour et du sacrifice pour un élément universel et étranger. Mais cette réponse à Proudhon, elle n'est possible que si est détectée derrière la dénonciation proudhonienne de la propriété, un désir secret de propriété qui est attribué donc par Stirner à Proudhon. Et c'est ainsi que se comprend la dernière référence à la critique proudhonienne de la propriété comme vol, dont Stirner explique qu'elle ne vise que l'aliénation, au sens de Entfremdung, pas au sens de propriété aliénable, mais l'aliénation de la propriété, et donc que l'étrangeté, Fremdheit, que Stirner transforme en Fremdentum, pour l'opposer à l'Eigentum, de sorte qu'elle n'est en fait que le déguisement humanitaire d'un désir d'appropriation. On réclame, je cite un Stirner, on réclame ce qui est étranger, non pas en son nom propre, mais au nom d'un tiers. Le vernis égoïste est désormais effacé, et tout est tellement pur et humain. Mais plus largement, la réponse à Proudhon doit se lire sur le fond de la critique stirnerienne du droit, qui propose finalement de substituer à la notion de droit celle de pouvoir ou de puissance, Marthe, puisque tout droit suppose une structure hiérarchique, en ce sens qu'il ne peut être conféré, je cite, que par un esprit, que ce soit l'esprit de la nature ou celui du genre de l'humanité, l'esprit de Dieu ou de sa sainteté ou de son altesse, il faut bien plutôt dire que, je cite, « ce que j'ai, sans qu'un esprit m'y donne droit, je l'ai sans droit, je l'ai uniquement et seulement par ma puissance. » Édition Réclame, page 230. Alors c'est en s'appuyant sur des passages de ce genre que quelqu'un comme Gustav Landauer, quelques décennies plus tard, fera l'éloge de Stirner comme d'un anarchiste qui invite les opprimés à cesser de réclamer au nom d'une idole et de se plaindre de la méchanceté des puissants, et qui inviterait au contraire les opprimés à passer à l'acte ici et maintenant, c'est-à-dire à se montrer eux-mêmes puissants. De sorte qu'il est temps maintenant de se demander, dernier temps de mon intervention, qui sera plus bref que les autres, je rassure ma présidente, de se demander donc ce qu'il y a, ce qu'il pourrait y avoir d'anarchiste chez Stirner. Si la réception d'une œuvre n'est pas totalement arbitraire, mais actualise au moins partiellement les potentialités qu'elle contient, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, malgré tout, un anarchisme stirnerien qui ne se résume pas à la compréhension toute négative qu'il a du concept d'anarchie et qui tient encore moins à une communauté de vues avec les anarchistes de son temps? Alors, prendre cette question au sérieux, avec toutes les précautions nécessaires, ça implique de se tourner vers deux thèmes, principalement un, mais l'autre apparaître comme en annexe, deux thèmes stirneriens, la critique récurrente de la hiérarchie et la possibilité d'une association, le statut qu'a chez lui la possibilité d'une nation, d'une association d'égoïstes. Alors, la critique de la hiérarchie, elle n'est pas propre à Stirner, mais comme pour d'autres thèmes qu'il partage avec le jeune hegelianisme, on peut dire qu'elle prend chez lui une dimension simplement singulière et radicale et paradoxale, puisqu'elle consiste à retourner et étendre au reste du mouvement jeune hegelien une critique qui est récurrente dans les écrits de ses membres. La dimension anti-hiérarchique du jeune hegelianisme, ce que Pauline Kloschek, dans un remarquable article sur les jeunes hegeliens et l'anarchisme, a pu appeler l'anarchisme de principe des jeunes hegeliens, cette dimension anti-hiérarchique n'est plus à démontrer, et elle est particulièrement sensible chez des auteurs qui, comme Rougeux, n'en restent pas à une critique de l'autorité de l'État chrétien, mais insistent sur la nécessité de critiquer cette autorité en tant qu'elle est sacrée, et donc de critiquer l'État prussien comme une hiérarchie. La spécificité de Stirner, c'est qu'il étend cette critique anti-hiérarchique en faisant le type même de la critique anti-autoritaire. Il n'est pas d'autorité sans sacralisation, car c'est la sacralité qui transforme une simple puissance en autorité intouchable. Dans l'Unique, Stirner consacre un paragraphe particulièrement important, me semble-t-il, dans l'économie générale du texte, à cette critique de la hiérarchie définie comme « domination des pensées, domination de l'esprit ». Page 79 dans l'édition Réclame. Cette domination exercée par l'esprit, elle s'observe aussi bien lorsque nous sommes opprimés comme individus ou par d'autres individus, et par d'autres individus au nom de Dieu, de l'État, de l'humanité ou du genre, que lorsque nous vivons, je cite, pour une grande idée, une bonne cause, la goutteuse à dont il a été question ce matin dans l'exposé de Wolfgang Esbach, une doctrine, un système, une vocation sublime. Page 82. Au point de vue hiérarchique, Stirner oppose le point de vue de l'homme profane, qui est un point de vue mondain, weltlich, ni heilig, sacré, ni philosophique. Il propose également une histoire de l'extension de la hiérarchie, dont il estime que, bien loin d'avoir été remise en cause par la réforme, elle a atteint à cause d'elle son point culminant ou son point le plus profond. Je ne reviens pas sur le procès d'intériorisation dont il a été question. La liberté de l'esprit est interprétée comme domination des esprits, domination des esprits par l'esprit, et cet enracinement de la hiérarchie se trouve, selon Stirner, simplement prolongé par le libéralisme qui se contente d'amener de nouveaux concepts à sanctifier, l'humanité à la place de Dieu, l'État à la place de l'Église ou la science au lieu de la foi. On mesure dès lors l'importance de cette critique de la hiérarchie dans l'économie générale du texte, puisque la critique des différentes espèces du libéralisme, au chapitre suivant, viendra simplement s'inscrire dans cette matrice générale. Je ne reviens pas dessus. Un passage de la fin de l'unique donne une idée de la centralité de cette thématique anti-hiérarchique dans la pensée de Stirner. Celui-ci explicite à nouveau la hiérarchie comme pouvoir des pensées et des idées, domination des théories et des principes, souveraineté de l'esprit. Et il ajoute que la hiérarchie durera tant que l'on croira ou pensera à des principes, ou même qu'on les critiquera. Car même la critique la plus impitoyable qui mine tous les principes en cours croit quand même finalement aux principes. Page 392-393. Alors, on touche ici à ce qu'il y a peut-être de plus profond, de plus radical dans l'unique, mais aussi peut-être à ses limites et à ce qui vient limiter le rattachement de Stirner à la tradition anarchiste. Alors, profondeur, parce que le nominalisme décapant de Stirner vient remettre en cause non seulement les fantômes qui oppriment le moi, mais aussi les luttes qui ont besoin de postuler l'existence de ces fantômes pour les affronter et les remplacer par d'autres. Parce que cette attaque, elle fournit peut-être, c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'anarchistes comme Landauer y a été sensible, elle fournit des armes contre une domination s'exerçant au nom d'entités impersonnelles, en rappelant que cette domination, elle n'en demeure pas moins toujours celle d'individus sur d'autres individus, par où l'on voit qu'une critique de l'idéologie comme déguisement universel de forme personnelle de domination est possible à partir de Stirner, qui est sur de Proudhon, alors qu'il dit « Ah, j'ai une aspiration égoïste à la propriété et je la déguise en aspiration humanitaire ». Mais d'un point de vue pratique, alors on rejoint un peu les regrets des premiers individualistes anarchistes, cette attaque, elle est aussi limitée puisqu'elle ne propose finalement, pour déboucher pratique, en tout cas sur le terrain de la philosophie, qu'une libération de la pensée, expression qui doit évidemment s'entendre non pas au sens d'une liberté de l'esprit, mais au sens où chacun doit se libérer d'une domination exercée par la pensée, d'une domination des pensées sur le moi. Et cette libération, elle passe nécessairement par la pensée de chacun. Alors elle implique une action théorique, mais toute négative, qui définit précisément l'entreprise stirnerienne dans l'unique, qui vise à parvenir à un résultat négatif, qui est cette « Gedankenlosigkeit » dont il a été question ce matin, qu'on trouve mentionné page 164 dans l'édition réclame, c'est-à-dire finalement au corps, hein, qui permet de repartir du corps, qui fait mon unicité dans le monde, d'où l'idée selon laquelle eh bien, c'est au terme de la séparation qu'il devient possible de s'unir. Un thème auquel, là encore, Gustav Landauer, dans son texte « Vers la communauté par la séparation », sera très sensible. Donc cette intervention théorique, elle se veut libératrice sur le terrain de la philosophie, en ce sens que l'ouvrage propose finalement quelque chose comme une anti-philosophie, prenant la réhabilitation du corps, du profane et du monde, contre des philosophes qui ne sont que l'équivalent moderne des prêtres, hein, explicitement, hein, page 93 dans l'édition réclame. Le reste, c'est-à-dire le développement effectif de l'individu, notamment dans son commerce avec les autres, ce reste, eh bien, ne relève plus à proprement parler de la philosophie, et c'est ainsi qu'on peut interpréter l'absence de préoccupation de Stirner pour toute formulation de quelque chose comme un programme, notamment social. Alors reste dès lors la mention de l'association d'égoïstes que nombre d'auteurs libertaires soucieux d'inscrire Stirner dans l'histoire de l'anarchisme n'ont pas manqué de relever chez l'auteur de l'unique en ce qu'elle leur semblait marquer une conciliation possible entre individualisme et communisme. Mais précisément, Stirner ne prône jamais une telle association, pas plus d'ailleurs qu'il ne la condamne. Simplement, confronté à l'évolution de certains de ses camarades, il dépouille leur profession de foi communiste de leurs apprêts humanitaires pour montrer d'une part comment elles aussi découle d'un égoïsme fondamental, et d'autre part, combien elle serait plus libératrice si elle parvenait ainsi à se présenter sans fin. On touche ici à ce qu'il y a de déroutant, peut-être de décevant dans la pensée de Stirner, qui est très radical dans sa dénonciation de toutes les formes de hiérarchie, mais qui, se voulant en même temps une description froide des motifs égoïstes qui gouvernent les actions, ne semble finalement déboucher que sur une assomption théorique de l'égoïsme. D'un autre point de vue, parmi les figures du mouvement jeune hegelien, Stirner apparaît comme l'un de ceux qui n'ont pas pris le tournant politique et social et qui s'en est tenu à une radicalisation conséquente de son premier anarchisme de psyché. La propriété se présente comme une fixation théorique d'une phase de ce mouvement, par ailleurs en constante évolution. Je conclue en quelques mots. On ne peut pas faire grief à la tradition anarchiste de s'être intéressé à Stirner, voire d'avoir cherché à l'inclure en elle, le tort serait évidemment de plaquer rétrospectivement sur lui des caractéristiques de ce mouvement, voire des idées que nous avons sur lui. Mais il n'y a pas non plus à faire grief à cette tradition en faisant de Stirner l'une de ses sources infâmes. Il faut simplement reconnaître que si Stirner avait voulu se dire anarchiste ou se revendiquer d'une manière plus explicite de l'anarchie, il aurait pu. Proudhon l'avait déjà fait d'une manière retentissante. Il connaissait l'usage positif du mot « anarchie » pour désigner le communisme chez Hesse. Et il avait sans doute aussi connaissance de l'ouvrage qui envoya Edgar Bauer en prison. Mais au moment où ce qualificatif est mis en circulation, sa reprise par Stirner n'est plus possible, car ceux qui se revendiquent de l'anarchie sont précisément ceux qui s'éloignent de lui, le laissant à son destin, selon le bon mot de Tanguy Laminot, de « philosophe qui s'en va tout seul ». Merci.
Merci beaucoup. Donc, voilà, deux exposés qui complètent, qui précisent la vue de l'ouvrage qui se dégage depuis ce matin, avec un exposé qui a repris la comparaison entre Stirner et Feuerbach, et en plaçant l'accent sur la question du moi, hein, chez Feuerbach et Stirner, et puis un exposé qui nous montre que le rapprochement à l'anarchie doit être fait prudemment, en connaissance du contexte. Donc apparemment, dans le chapeau de l'agrégation court un topos sur que j'avais moi-même repris d'ailleurs dans mes propres cours aussi. Enfin bon, je ne sais pas. Voilà, on va voir ça. Et bon, donc on voit à quel point Stirner, bien sûr, est dans un geste d'opposition, de déplacement et puis de maximalisation. Ça, c'est vraiment une question qui pourrait peut-être se poser, mais je voudrais pas d'abord priver le public. Vous avez certainement des questions à poser. Oui, je vous en prie. Pour l'instant, vous êtes le seul.
En fait, moi, ignorant complètement ce qu'était la tradition anarchiste, en lisant le libellé du jury, je me suis posé la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de pas anarchiste chez Stirner ? Parce que pour moi, enfin, il est dans une perspective d'abolition de l'État, d'abolition de la propriété. Et du coup, je lui dis, c'est l'anarchiste parfait. Enfin, je ne vois pas ce qui manque à ça. Et en fait, du coup, ce que j'ai compris donc à travers votre exposé, c'était que dans la tradition anarchiste, il y avait un programme social. Et du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt la tradition anarchiste qui n'est pas aussi anarchiste que Stirner que dans ce sens-là ?
Vous avez conscience, c'est très anti-stirnerien, ce que vous dites. Vous jugez de l'anarchisme à partir d'une idée de l'anarchisme plutôt qu'à partir des anarchistes. C'est embêtant. Blague mise à part. Alors, il y a deux raisons permettent de résister à cette inclusion. C'est tout simplement déjà l'anachronisme. Trois raisons, en fait. D'une part, je l'ai signalé, s'il voulait se dire anarchiste, il pourrait. Et il ne le fait pas. Alors, il y a des obstacles à la réception positive et à la compréhension même de ce que veut dire Proudhon, hein, qui en 1840 se dit positivement anarchiste. Jusqu'à présent, c'était une insulte. Et c'est Proudhon qui, en 1840, dans Qu'est-ce que la propriété, se revendique comme anarchiste. Et alors, c'est une provocation, c'est voilà. Mais en Allemagne, ils comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Hein, ils se disent, mais oui, en fait, bon, il n'arrive pas à définir une forme de gouvernement, donc il avoue son échec. Voilà. C'est comme ça qu'ils le prennent. Donc, il y a des obstacles. Bon. Mais, disons, voilà, premièrement, Stirner ne se dit pas anarchiste. Donc, voilà, c'est une première bonne raison. Si on fait une lecture charitable du texte, on va pas le qualifier d'anarchiste. Deuxièmement, à l'époque, l'anarchisme, même comme mot, d'ailleurs, n'existe pas. Il y a le mot anarchiste est employé, anarchie existe, mais anarchisme n'existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mouvement anarchiste. Il n'y a pas de mouvement anarchiste. Celui-ci, alors, il se constitue précisément à partir du mouvement ouvrier. Il se constitue progressivement à partir des courants d'opposition dans la Première Internationale. Et donc, en fait, postérieurement à la dissolution de la Première Internationale, donc après 1872, et même, en fait, encore le premier congrès des opposants à Marx, pour le dire très rapidement, de la Première Internationale, le congrès de Saint-Imier, n'est pas encore tout à fait la mise en place d'un mouvement anarchiste, hein, on appelle ça l'international anti-autoritaire. Ce sera dans les années suivantes, hein, à partir du milieu des années 1870, que véritablement apparaît quelque chose comme un mouvement anarchiste. Ça m'amène du coup à la troisième raison, c'est que c'est qui les anarchistes ? Et c'est quoi l'anarchisme ? Si c'est ce mouvement-là, évidemment, dans son développement historique, forcément, annexer Stirner, ça peut être que le fruit d'une manœuvre rétrospective qui a sa légitimité, Lorsque un courant se constitue, qu'il aille chercher, dans l'histoire des idées une inspiration à la lecture de textes, c'est tout à fait légitime. Qu'on fasse une lecture militante de textes, c'est très bien. Simplement, nous, en historiens des idées, si l'on veut, si on procède de la même manière, si on dit « Ah bah oui, les anarchistes disent que Stirner, il est anarchiste, donc il est anarchiste », ça va pas. Voilà. Donc le gare aux illusions rétrospectives. Après, bien entendu, cette lecture, elle ne se fonde pas sur rien. Évidemment, ils avaient des bonnes raisons de trouver la lecture de Stirner intéressante, ces anarchistes de la Belle Époque. Mais c'est ce type de distinction méthodologique, à mon avis, que vous devez avoir en tête en traitant cette question, je pense.
Comme le temps passe, non, on m'avait suggéré de n'accepter plus qu'une autre question. Et... Non, c'était pas...
Regrouper
les questions. Bon, alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'abord d'autres... Oui, allez-y. Alors. Et peut-être sur le mois. Moi, j'aurais une question ensuite sur le mois, si jamais il n'y en a pas, surtout.
Donc, la vision que j'ai... Enfin, une vision que j'ai de l'anarchie, c'est celle de Léo Ferré. Il me semble, alors je me trompe peut-être, mais qu'il a dit l'anarchie, c'est surtout en soi que ça se passe. C'est pas forcément abolir l'État, c'est en soi que ça se passe. C'est je me libère de toutes les influences. Et comme ce matin, on a parlé d'enlever les enveloppes, comme on a parlé d'un noyau autour duquel il y avait des enveloppes qu'il fallait enlever, je me disais, est-ce que finalement, Stirner, c'est pas la même chose que Léo Ferré, l'anarchie pour lui ?
Alors, il y a une autre phrase de Léo Ferré... C'est dans Avec le temps, on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Est-ce que c'est ça la leçon de l'unique ? En fait, j'en suis pas certain.
C'était pas cette phrase. Sais pas exactement la phrase à laquelle je pense, mais ce que j'entends de Léo Ferré à chaque fois, c'est de dire que voilà, l'anarchie, ça se passe en soi quand on se débarrasse des influences extérieures qui nous emprisonnent la pensée, en fait.
Alors, on va dire que le parcours de libération que propose Stirner, c'est une manière, oui, il passe par ce moment de se défaire intérieurement d'un certain nombre de choses. Et d'en revenir à la corporéité, qui est précisément ce qui nous singularise. L'idée, lorsqu'il dit le but, c'est de parvenir à l'absence de pensée, il dit pas qu'il faut arrêter de penser, il dit simplement qu'il faut repartir de là. Il faut repartir de l'extrême de la singularité ou de la particularité qui est précisément le corps. C'est le corps qui d'abord est unique. De toute manière, c'est pas par la pensée qu'on se singularise, c'est par le corps. Et le tout, c'est d'avoir une pensée qui soit en accord avec cette singularité. Et donc le travail intérieur, chez Stirner, il serait plutôt un travail négatif, d'élimination des fantômes qu'on a en nous et auxquels nous nous soumettons. Malgré tout, il y a l'expansion dans l'extériorité. Et précisément, son individu, c'est un individu qui s'approprie le monde aussi. Et de ce fait, le versant positif, non pas du questionnement stirnerien, mais on pourrait dire de la pratique vitale de Stirner, elle se passe pas en soi-même, elle se passe précisément constituer des associations avec d'autres, être dans des rapports inter-individuels comme ça. Donc, ouais, plus nuancé.
Ce qui fournit un petit peu une transition, parce que si ça se passe pas en soi-même, ça me fait revenir à cette question du moi. Puisque bon, on parle à la fois de maximalisation, donc on a des notions qui sont maximalisées, et en même temps. Moi, je suis un peu... On a l'impression qu'elles sont entièrement vides, ces notions. Enfin, c'est un moi qui est vide, non ? C'est un peu provocateur. Chez Stirner.
Ah, non, c'est bon. Comment ça, c'est un peu maximalisé ? Chez Stirner ?
Les notions sont maximalisées, c'est-à-dire elles sont quasiment absolutisées. Enfin, le moi ou l'association, non ?
Ben, c'est un peu la critique qu'on fait Feuerbach, oui.
Voilà, mais elles sont vidées en même temps. C'est-à-dire le moi stirnerien n'est pas composé de rien. Quand on compare avec Freud, il y a des fonctions, etc. Le moi stirnerien n'est rien. C'est-à-dire il est, non ? Une fois qu'on l'a dépouillé, on obtient. Bien.
Mais alors, si on considère l'individu et justement la corporéité, si, quand même à minima, mais c'est vrai que ce que lui reproche Feuerbach, c'est que pour Feuerbach, il n'y a pas de moi sans toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi que l'on puisse qualifier en dehors d'un rapport interindividuel et qui passe par la sensibilité, c'est-à-dire par la pensée aussi, mais aussi par l'échange et par la sensibilité au deux sens du terme, du sens et de la sensibilité affecte. Donc lui, c'est vrai que pour lui, c'est le moi s'il n'y en a rien, pour Feuerbach, c'est un moi encore plus abstrait que le reproche qui est fait au moi de Feuerbach, quoi. Et encore plus proche de la religion, d'une certaine façon. C'est un dieu, yeah. Oui.
Donc, kurz noch. Also, ich finde es gut, Frau Durand, wenn Sie sich mit Herrn Angot in der Pause nochmal über den Körper unterhalten. Denn, also, ich finde es großartig, dass Sie die Feuerbach-Erwiderung auf Stirner eingeführt haben. Wo er diesem Stirner, der nun auf seine Körperlichkeit insistiert, darauf aufmerksam macht, dass es Männer gibt und dass es Frauen gibt. Das heißt, Feuerbach nimmt damit diese empiristische, wenn Sie so wollen, auch biologische Linie, bringt er herein. Nicht? Bist du mehr als Mann, fragt er nicht. Und, sowas so. Und das ist natürlich, das ist schon ein starker Angriff von Feuerbach auf Stirner, weil man jetzt fragen muss, ich will das nicht weiter ausführen, es gibt ja auch noch eine Replik von Stirner darauf, darauf haben Sie auch hingewiesen. Wie entwindet sich Stirner dieser Fixierung auf seine körperliche Sexualität? Er muss da irgendwie raus, denn sonst ist er determiniert, sonst sitzt er auf der Feuerbachschen Linie. Sexualität, das heißt Männer, Frauen, das heißt Kinder kriegen, das heißt menschliche Gattung, das heißt Liebe, das heißt Gemeinschaft, bla 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 und so weiter. Dann sind wir beim Liebeskommunismus und dann muss er irgendwie heraus. Ich kann das Problem nicht lösen. Ich wollte es Ihnen nur überreichen. Was mir nur einfällt dazu, ist die Frage des späten Foucault, der irgendwo sagt, warum wir Europäer, warum müssen wir, wenn wir wissen wollen, wer wir sind, irgendwie im Kreis unserer Sexualität nachforschen. Warum müssen wir das? Das ist, ich wollte es nur weitergeben.
Ja, danke.
J'aurais juste quelque chose à répondre là-dessus. Enfin, il faut quand même faire droit à la réponse que fait Stirner à cette accusation d'être fichtéen. Il dit, non, justement, moi je ne parle pas du moi, je parle de moi.
Oui, voilà. non, mais ça c'est vrai. C'est...
Et puis, deuxième chose, c'est que... moi, ça me semble plus intéressant de considérer qu'il y a deux rapports inverses à la constitution du moi, plutôt que de prendre pour argent comptant la critique feuerbachienne. Et puis, alors, sur la question de la sexualité, là, une réponse de stirnerienne consisterait à dire, oui, mais lorsque je considère uniquement la sexualité comme homme-femme ou que je me considère moi uniquement comme homme ou comme femme, je peux très bien être opprimé par le fantôme de la masculinité ou de la féminité. Et que l'homme, que la sexualité, ça, c'est pas seulement entre un homme et une femme.
Ouais. Non, alors ça, c'est...
Ça ferme cette possibilité-là aussi. Enfin,
oui, mais alors après, il y a aussi un aspect historique dans la question, mais il était bien évident que j'ai proposé un exposé, une lecture de Stirner,
qui était par rapport à Feuerbach.
Mais le problème, c'est pas tellement la sexualité, c'est en quoi elle est constitutive de notre identité, de nos appartenances au genre humain, en fait. C'est là, je crois, toute la différence. Parce que sinon, il y a corporéité aussi chez Stirner. La différence, ça se fait pas là. C'est sur ce qu'elle engage dans notre essence, quoi.
Moi, j'ai le sentiment que, pour lui, caractériser le moi sexuellement, de cette manière, c'est déjà en rabattre de son unicité. C'est déjà le même que le considérer comme ouvrier, femme, noir, blanc.
Et je crois aussi qu'il ne faut pas le prendre de façon uniquement comme le rapport homme-femme, mais le rapport homme-femme, il est intéressant dans le sens où c'est l'autre qui n'est pas un double de moi. C'est cette différence que ça intègre.
Effectivement, il faudra qu'on en discute pendant la pause. Et voilà. On vous remercie encore. Merci pour la discussion et les questions. Merci. Et on a... Olivier, on a 10 minutes de pause. 10 minutes, voilà.